Bonsoir. Vous êtes bien sur Westrack Radio, 95,9 FM au Havre. Et ce soir, nous vous invitons à découvrir la création littéraire, vive, ici, au Havre. Nous enregistrons depuis le studio de Pienneau, fort de Tourneville. Je suis Laure Limongi, écrivain directrice du parcours création du Master de création littéraire du Havre. Je coordonne et je présente cette émission à la réalisation Emmanuel Lalande de l'association Pienneau, qui enseigne également à l'ESADAR. Depuis 2012, existe au Havre le premier master de création littéraire créé en France. Oui, le tout premier. Grâce aux efforts conjugués de l'École d'art et de l'Université du Havre, ce qui est un classique des études supérieures américaines, le Creative Writing, est enfin proposé à des étudiants venant majoritairement d'études de lettres ou d'écoles d'art. Ce master est également unique en raison de l'association de ces deux institutions, l'École d'art et l'Université, qui associent leur culture, leurs compétences, leurs méthodes complémentaires. C'est une grande et belle aventure qui en est encore à ses débuts et dont les résultats sont déjà reconnus. En effet, déjà deux diplômés publient leur premier livre chez des éditeurs prestigieux. Lucie Desobliaux, diplômée 2016, vient de publier La nuit sera belle chez Actes Sud, qui a récemment été présentée à la Galerne. Olivier Elcoury, également diplômé 2016, sort Surface de réparation chez Notabilia à la rentrée littéraire. Agnès Maupré, dessinatrice et auteure de bande dessinée, est également passée par le master. Elle publiait déjà auparavant et vient de sortir chez Gallimard BD un Tristan et Iseut qu'elle a écrit pendant ces deux années au sein du master. Si vous en êtes curieux, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d'informations, crealit.fr. Ce soir, on va être un petit peu en amont de tout cela. Ce sont des étudiants qui vont lire ou performer des textes au micro. Des étudiants du master de création littéraire ainsi qu'une étudiante en design graphique de l'ESADAR grâce à l'invitation de Westrack Radio. Ce n'est pas leur première radio, puisque tout au long de l'année, nous réalisons des radios web que vous pouvez retrouver en direct sur le site Radio Pieds Nus ESADAR. Nous les annonçons régulièrement sur notre page Facebook, mais aussi en podcast sur le site du Master de création littéraire du Havre, crealit.fr, onglet radio. Alors ce soir, on a lancé une question. Pas vraiment une thématique, juste une direction, une réflexion. Et cette question, c'est hier ou demain ? En ces denses périodes électorales pleines de feuilletons et de rebondissements, c'est une question que l'on peut se poser en regardant l'échiquier politique. Dans quel sens voulons-nous aller ? Comment trouver la force de ne pas se replier vers le passé, ne pas se laisser engluer par la peur ? Comment être confiant et tourner vers l'avenir ? Cela semble un enjeu crucial et il y est également lié aux exigences de la création. Ce double mouvement qui fait que, à la fois, on ne vient pas de nulle part, loin de là. Il y a des dizaines de milliers, des millions d'écrivains qui ont tracé des signes sur des surfaces planes bien avant nous. Quelque part, toute écriture est palimpseste, c'est-à-dire recouvrement d'une surface déjà écrite, en laissant émerger quelques traces, héritages, citations. Et il faut en être conscient. Il faut lire, lire, relire sans cesse. Le métier d'écrivain est aussi celui de lecteur. Et en même temps, on trace sa propre route. On essaie de trouver sa voie personnelle, on défriche, on emprunte des terrains plus ou moins balisés. On tente, non pas de faire ronronner encore davantage le ronron des livres produits, mais bien de proposer des livres vivants, des livres organiques, des livres qui respirent, des livres indociles, qui apportent bien plus qu'un moment insipide, laissant tout bien à sa place. Des livres qui interrogent, qui font réfléchir, qui emportent, qui font partie de cette liste de choses qui font battre le cœur, écrite par Shai Shonagon. Alors voilà, tout ça dans cette question ouverte, hier ou demain. On fait quoi en tant qu'être humain ? On fait quoi en tant qu'écrivain ? Qu'est-ce qu'on se donne les uns aux autres ? Doit-on se confier à l'instant, à la route ? Inventer des vies ? Réinventer sa vie ? Fictionnaliser le document ? Débrider l'imagination ? Les étudiantes et étudiants en création littéraire, ainsi qu'une étudiante en design graphique de l'ESADAR que vous allez entendre ce soir, vont y répondre artistiquement, littérairement. Nous sommes en direct sur l'antenne de Westrack Radio 95,9 FM, au Havre, au studio Pieds Nus, au fort de Tourneville. Et nous allons commencer par de la musique, avec Tour d'horizon d'Emmanuel Lalande et Olivier Labbé. Marie Lamiable, extrait des mouvements prétextes.
Tagadam Togoudoum. Tagadam Togoudoum. Tu rentres de voyage. Tagadam Togoudoum. Tagadam Togoudoum. T'étais parti loin, en Italie. Tagadam Togoudoum. Depuis 10 jours, tu sillonnes les villes. Rome tout d'abord, puis Naples et Capri. Tagadam Togoudoum. T'es pas toute seule, non? Y a tes parents. T'es encore trop jeune pour voyager alone. T'as pas 15 ans. Tagadam Togoudoum. Vous êtes parti il y a quelques heures au train du soir. Ça a été un peu la course cette dernière journée. T'as pas eu le temps de penser. Tagadam Togoudoum. Le matin même, tu t'étais réveillée sur cette île. La chanson en tête, bien sûr. Mais en ouvrant les volets, t'avais vite maudit cet air absurde et prié Hervé Villard de bien vouloir fermer son clapet. Le bleu du ciel tombant dans celui de la mer, azur. Il n'y avait pas besoin d'autre musique. Et tu fermais les yeux de telle sorte à oublier les fesses de Bardot sous son peignoir jaune, la jolie script italienne et Ulysse levant ses bras face au soleil. Tagadam Togoudoum. En partant sur les bateaux, tu t'es promis d'y revenir un jour, avec celui que tu aimes. Tu te l'es promis parce que toute cette verdure, les amaryllis, bougainvilliers et gros bouquets de forbes, il y avait quelque chose de pénible et de cruel à les avoir découverts sans lui. Le port de Marina Grande, ses bâtisses de couleurs vives ou d'un blanc apaisant, ses barques et les dernières chaloupes des pêcheurs. Un troupeau de chèvres sur le flanc de Monte Capello, une image qui te restera en mémoire, comme apprise par cœur, dans un film de l'ancien temps. Et la langue italienne, les gelati du soir qui te coulaient sur les doigts. Tagadam Togoudoum. Oui, un jour cette chance vous sera donnée d'y aller ensemble. Parce que tu crois en ce bonheur de pouvoir tout partager avec ses yeux, et les reflets de la mer tyrrhénienne sous le soleil sont manifestement un cadeau à faire quand on est amoureux. Tagadam Togoudoum. Vous êtes parti tout à l'heure, un peu à la va-vite. Tu ne sais pas si tu as le temps de bien dire au revoir au pays. La prochaine fois, tu sais que tu solliciteras une dernière terrasse. Tagadam Togoudoum, ta tête brinque-balle. Ton esprit s'échappe, ton esprit s'agrippe. Il s'accroche et étire ses membranes jusqu'à tout ce qui lui reste de vert, de bleu et de vent. Tagadam Togoudoum, bercé par le rythme de la machine, tu t'abandonnes à la nuit noire, te replies dans l'entre-deux pays. Le cuir est froid contre ta joue. Tagadam Togoudoum. Allongé dans ta couchette, tu ne sais pas s'il est tard ou tôt. Tu te demandes même si l'heure tourne encore. Qui pourrait bien le lui demander? Tu ne sais pas où tu es. Alors, la seule chose que tu puisses faire pour te distraire, c'est de laisser parler cette petite voix, tout à l'intérieur de toi, celle qui s'imprègne de ton sommeil et y mélange les paysages. Tagadam Togoudoum. L'amoureux te manque. Lui non plus, en fait, tu ne sais pas quand est-ce que tu le reverras, ni dans quel lieu. Tagadam Togoudoum. Au beau milieu de la nuit, tu te dis que lui n'est sûrement pas en train de penser à tout cela. Tu l'imagines dormir, la courbe de son épaule sous les draps. Tagadam Togoudoum. Nous sommes en avril. Il était doux de marcher nu-pieds sur les pavés des villes. Des bancs d'église t'ont accueilli quand tu étais fatigué. Il y faisait frais. Tu pensais déjà à lui. Tu te demandais pourquoi il t'avait quitté. Tagadam Togoudoum. Tu ouvres les yeux, tâtonnes dans la pénombre, cherche ton portable, regarde l'heure, 2h32. Tagadam Togoudoum. T'avais pourtant pour vous deux plein de projets, tous baptisés de gouttes de pluie ou de l'eau des lacs, la rosée des montagnes, Tagadam Togoudoum. Tu revois un voilier sortir du port de Capri. C'était hier ou il y a 2 jours. Le vent dans ses voiles l'arrachait à la rive. À cet instant, tes poumons se sont gonflés, eux aussi, et tu aurais pu hurler. L'absence était trop vive, douloureuse. Une petite pierre aiguisée prête à balafrer ta face, Tagadam Togoudoum. Tu voudrais que tout ça ne soit jamais arrivé. Quitte à n'être jamais sorti de ton pays, tu voudrais encore les champs de Lorraine au printemps quand vous chaussiez vos sourires tendres. À l'orée de ces bois, il t'emmenait et ton regard filait vers le sien à la hauteur des cimes. Vous vous asseyiez quelque part sur la mousse et vous vous taisiez. Tu repliais tes genoux sous ton menton. Tu écoutais. Takatam tukutum. À force de silence, la faune du Val s'était habituée à vous. Tu te souviens d'un couple de chardonnerets et puis la bergeronnette. Takatam tukutum. Tu frissonnes. C'est une ligne d'Aragon que tu viens de réentendre, portée par la voix de Jean Ferrat. Ça te fait un peu mal au ventre, là où c'est tout noueux quand tu n'as aucune pensée tendre à laquelle te raccrocher. Toi aussi, tu pensais que vous vieillirez ensemble. Takatam tukutum. La machine est en mouvement. Avec elle, tu avances, allongé à l'étroit, en prise à ton vide. Tu saisis l'écran, 2h38. Une main sur le front. L'enclume de la nuit ne joue pas sur toi. Takatam tukutum. Tes parents ont une respiration basse, assoupie. Tu les écoutes, tu as espoir que cela puisse te bercer, mais quelle illusion. Tu es partout, sauf ici. Takatam tukutum. Ouvrir les yeux, c'est être seul dans le noir. Les fermer, c'est repartir en ligne droite d'où tu viens. Loin, très loin. Capri, Naples, Rome. Ton âge qui éclot. Les mois derniers passés à pleurer. Et ceux d'avant, ceux où tu piaillais de joie à l'idée de le retrouver, entre deux trains, entre deux villes, vos campagnes séparées, il te disait qu'il fallait partir, que tu devais voyager. L'Irlande aussi est belle, tu sais. Takatam tukutum. Tu soupires, les yeux clos, c'est inutile. Takatam tukutum. Mal à l'aise, ainsi couché sans pouvoir remuer ton corps, tu ne souhaites que te débattre, mais la crainte de réveiller tout le monde, de faire trop de bruit. Alors, pour éviter de tomber, fixez ton souffle au bruit de la machine. Takatam tukutum. Takatam tukutum. Takatam tukutum. Nous sommes en avril et tu reviens d'Italie. À la gare de Lyon tout à l'heure, tu ne le sais pas encore, mais tu verras comme ça sera joli. L'aube avant l'heure pour les voyageurs, elle sera à ton regard comme une promesse, en descendant les valises des paniers, en buvant les premières gorgées d'eau fraîche, la promesse des villes et des heures que tu as encore à arpenter, la promesse du premier instant, avant de continuer à vieillir.
Valentin Savoie, héros.
Je ne me rappelle pas grand-chose de lui. Noir comme des centaines de milliers d'autres, ça a son importance, comme la guerre sur la nation. Sa vie aussi aura changé à son retour. Restauration du service et Pearl Harbor, incorporation et débarquement. Il allait pouvoir faire cette traversée comme ses ancêtres d'avant lui. Il ne savait que trop vaguement d'où, une terre d'Afrique. Ce n'était pas un retour, mais un aller par-dessus l'océan. Quitter ce pays qui n'était pas encore le sien. Être quelqu'un, quelque part, l'ailleurs. Comme il humait l'air nouveau par-dessus les bords hauts de son landing craft. Pas de guerre du feu. Son acharnement à lire pendant son instruction express avait attiré le bon œil de ses sergents. Bon ni mauvais à rien. Prêt à tout, sa place était auprès du génie. Les bourgeois de West Point, même au front, auraient besoin d'un boy, un adjudant. Lui et ses ambitions, la quête docile d'officier. C'est de nuit qu'ils accostèrent avant leur avant-garde, Gold Beach, pour anticiper la boucherie d'Omaha, un port béton flotteur en quelques heures et un débarquement avant l'aube. Une DCA, des hommes par poignée et plusieurs véhicules blindés, contre l'artillerie d'élite, les submersibles et les bazookas. L'idée fonctionnait. Les jeunes chairs à canon contre les lames de bunkers des plages de sable, les paras qui foutaient le bordel tout autour de la région depuis la veille et les intellos qui débarquaient en cavalerie. Les M18, chats des enfers qui rushaient hors de l'eau sans se mouiller, allaient planter l'armée allemande dans le dos pendant qu'elle découpait les premières lignes à la mitrailleuse en gerbes de sang et de poussière. Il avait les bottes sèches quand de jeunes gars comme lui, des frères, oubliaient les airs virils et rassembleurs de leur compagnie en se jetant à la mer. À 20 ans, ils se précipitent entre les éclaboussures grises et les mares brunes prunes par endroits. Ils appellent au vide quand ils comprennent, criblés, d'où viennent ces teintes. On ne meurt pas en héros, Les héros ne meurent pas. Il fut l'un de ceux-là.
Guillaume Sorensen, extrait de 52 Hertz.
Ah, l'écriture, bonsoir. Cette muse étrange qui nous fait voyager de pays en pays, de terre en terre. Eh bien, parfois nous ne sommes pas seuls à la faire naître. Il suffit simplement de contempler, d'être là, et d'être là au bon croisement, au bon moment où nous croisons un personnage qui coupe notre vie en deux, avant son apparition, après son apparition. C'est un de ces personnages que je vais vous faire découvrir ce soir. Un de ces grands artistes qui a su, je crois, diviser, rassembler et correspondre à un idéal puissant et fort dont je dois absolument évoquer l'importance ce soir. Cet artiste, ce n'est autre qu'Eddie Manhattan, le célèbre photographe. J'espère que vous excuserez l'anglicisme de mon titre, affaire de marketing, mes chéris. The official timeline of Eddie Manhattan, the infamously famous photographer, non-translated in English with a little taste of franglais, so to speak. 1957, tu nais Edwardine Constantine Valériane Fabiola Amsterdam au 13, rue de la Révolution, maintenant rue du Casteljoli à Hatt dans la vallée de Lu, en Ardennes. Ton père est parti chercher le sens de la vie, et il le cherche encore. Ta mère doit décider, assommée par 12 heures de labeur, quel organe couper. Le docteur juge ton pénis assez gros et te voilà catapulté en mâle. Tu diras de ton prénom féminin, trace administrative du scalpel nommé Fatum, qu'il s'agit d'une variante anglo-saxonne, et, dès la primaire, ton père se situe outre-Atlantique, souvent à Las Vegas. 1969. Tu demandes à ta mère pourquoi il n'y a pas d'astronaute femme sur la Lune. Ta mère répond qu'il est déjà assez extraordinaire d'y voir des hommes. Ceci est la première rencontre avec le sexisme dont tu es un souvenir précis. 1971. Malgré un parti pris évident, le docteur a vu juste et te voilà nanti de tout l'attirail masculin. Tout est au bon endroit, ta voix mue et tu chantonnes les succès de l'époque sous la douche, comme tout le monde. 1978. Tu découvres via une exposition à Bruxelles la photographie sous-titrée sobrement « Fille avec une grenade à la main » de Diane Arbus. Tu fixes cette photo géante en noir et blanc si longtemps que le stagiaire chargé de surveiller les visiteurs t'interpelle puis te secoue pour te réveiller. Encore cette photo où, face à trois miroirs, des travestis se maquillent pour te décider. Tu seras photographe et fan absolu de Diane Arbus, du peintre Spilliart, de Nina Simone. Et célèbre, et riche. 1989, tu as 42 ans, le mur tombe. Toi, à ce moment précis, tu dévores une gaufre fourrée à la bolognaise industrielle dans une gare européenne quelconque, probablement belge. Soudain, un rideau flotte, des rires fusent. Ton corps est magnétisé vers ce photomaton duquel sortent deux adolescents en salopette fluo. Tu soulèves le rideau, épais et crasseux. Tout est vert pistache. Sauf la glace qui te fixe et le tabouret au cuir aplati par un million de fesses. Tu suis la procédure. Ton épiphanie méthodique se produit. Selon les hasards cosmiques, aucun bruit ne vint perturber cette extase. Personne ne te bouscula quand tu attendis, reçus, même contempla les quatre carrés déroulés l'un derrière l'autre. Tu tenais l'objet des deux mains, le bras vers le haut, vers la lumière du néon de la gare. Tu te souviens de la perle de sauce origan tomate au coin de ta bouche, visible là en quatre exemplaires, du sifflet d'un contrôleur aussi, du chapeau en feutre mauve que tu portais à l'époque. Une odeur lourde de sueur estivale transperça tes narines. C'était la fin de l'automne 89 et pourtant, quelqu'un, quelque part, ne supportait pas l'écart de température entre le dehors et le dedans. L'idée de ta vie avait croisé ta route. 1995. Un fonctionnaire important te commande un portrait familial. Tu arrives, franchis le oui de l'immense demeure d'été de cette fameuse origine hébraïco-allemande. Tu secoues la tête de devoir, toujours, en premier lieu, garder ce réflexe de catégorie, d'origine. Tu promets de faire plus attention. J'ai 3 ans et je ruine 5 prises avec mes paupières. 2010. Je t'annonce mon désir d'entamer des études de philosophie et de théologie à l'UCL. Paternel, tu me déconseilles de désobéir à mon père qui me voit faire Sciences Po avec double cursus, bachelier en droit et bachelier en Sciences Po, avant un master en études européennes ou droit européen, parallèle à un investissement dans l'Assemblée Générale des étudiants de Louvain. Il me voit brandir un gueulophone, militer pour instaurer des gobelets réutilisables en pull à capuche, puis vers 30 ans, troquer cet uniforme pour la liberté offerte de la cravate et du col repassé. Tu dis, moi j'ai les idées trop schématiques pour la philosophie et que je vois le monde de façon trop grossière. Je suis un peu déçu, je te croyais plus libertaire et moins dur. Tu dis que je n'ai pas le choix, qu'au moins j'ai les rails sous les pieds et qu'une fois le train arrivé à Istanbul, m'a rien à foutre. Je lirai Platon tant et plus dans mon manoir adoubé par le pater familias. J'ai compris plus tard ton art de composer et de profiter des cartes échues en main par la vie. J'ai cru que tu me testais. Tu as dit souvent, au moins j'étais major de promo, mais au fond, tu savais que j'étais un technocrate de la pensée. 2018. Avant de venir à tes projets, tu fais un petit détour par mon rapport et tu dis que la fin est faible pour un doctorant en éthique. Je réponds qu'on m'a parlé de trame, mais pas de phoque. Et tu roules des yeux. Pirouette. Nous voilà arrivés au présent. Fin de la timeline. Voilà. Merci pour ce temps d'antenne. J'espère que nous aurons fait le tour de ces différents points d'accroche dans la vie de cet éminent personnage. Et sur ce, je rends l'antenne.
À présent, un morceau qui s'appelle 34 de Johan Lindvall, Ayumi Tanaka et Christian Van Umrode. Une improvisation de Lucas Sibiril.
On l'a monté hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours 10 doigts. Demi-tour. Ça a des pattes, peut-être. Ça a des poils qui sortent, qui pendent, qui flottent. Ça prend le vent. C'est gros, ça bouge, ça se bouffe les coins. C'est gros, ça se bouge, ça se tape partout. Ça tombe, ça se relève. Ça tombe et ça se relève. C'est gros, ça c'est bouge, il y a des bras. Il y a des bras, il y a des trous, c'est gros, ça bouge, ça se cogne, ça tombe, ça se relève. Demi-tour. Demi-tour. On rentre. Le décor posé épouse la forme de son environnement direct. Le décor tient en cachant ce qui lui permet de tenir. Le décor se soulève. Ça tient plus. On a tout vu. Le décor se balade, flirte avec les obstacles et se casse la gueule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours 10 doigts. Demi-tour. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? C'est gros, ça bouge. C'est plein de trous, il y a des bras et des couleurs, pas partout. Ça prend le vent. Ça fait pas autre chose que de se retourner. Et un peu d'ombre. Ça peut mettre une plombe à t'avaler 10 cm et ça te colle en 10 secondes au 100 mètres. C'est gros. Ça bouge, ça se cogne, ça se casse la gueule. C'est quoi ce truc? Aujourd'hui, on l'a regardé tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours 10 doigts. Demi-tour. Ça fait pas autre chose que de se retourner. Oh, je le sens pas. La chute a été terrible. Ça s'est relevé. Des jambes, des poils partout qui sortent, qui pendent, qui flottent. C'est pas vraiment des griffes, plutôt des ongles. C'est pas vraiment des pattes, plutôt des pieds. C'est pas vraiment des crocs, plutôt des dents. Ça a des bras et plein de couleurs, pas partout. C'est pas une boîte. C'est pas vraiment une boîte. C'est pas un radiateur. Ça bouge trop vite. C'est gros, ça se cogne, ça se casse la gueule, ça fait rien d'autre que de l'ombre. Attends, excuse-moi, je te dérange là? Non, tu peux rester, juste pour parler. Je vais chercher les clopes. Debout, ça avance lentement, ça claudique, ça rampe un peu. C'est quoi ce truc qui traîne? Demain, faudra tout remonter. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. J'ai toujours 10 doigts, demi-tour. Ça s'est posé là, c'est vide. Il n'y a plus de bras et plus de couleurs du tout. Une coquille, qui m'emmerde quand j'ai picolé, c'est que je me souviens pas de mes rêves. Et que je suis obligé de me compter les doigts au réveil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours 10 doigts. Demi-tour.
Camille Marteau préférait vomir sur le pont que passer par-dessus bord.
Traverser Saint-Malo-Cherbourg à bord du Grand Largue du mardi 3 au jeudi 5 mai 2017. La veille, à quai, dernier conseil. Préférez vomir sur le pont que passer par-dessus bord. Sans rire les gars, s'il y a tempête, préférez vomir à bord. Ils m'ont montré la chaise percée, sa bord ouvert sur le côté, sobe dans l'inert, je voulais répondre, vous plaisantez? Mais j'ai rien dit, j'ai ravalé. J'ai dit, votre océan, votre règlement, vous choisissez. Même si Catherine Poulain dans son bouquin ne dit jamais comment elle fait, des semaines durant sur son palangrier, comment elle fait pour quand besoin, aller pisser. Il y a la mer qui fracasse fort à l'extérieur. Ils disent c'est rien et moi putain j'ai mal au cœur. À coup d'à-coup sec, inattendu, ça encaisse, ça claque, max force, inertie. Ça claque la coque contre la vague qui me dit « Tu t'en sortiras pas chérie ». Mais j'ai pas peur, je me dis « J'ai jamais peur ». Tranquille, easy, pose-toi, allez, souris. Je regarde le bout de la terre, j'ai l'estomac au bout de la langue. Et je voudrais pisser, je me retiens, j'ai le ventre vitré, le courage dépecé comme un flétan. Je rentre tête baissée, on me dit ça fait un temps que t'écris plus dans ton carnet, est-ce que t'as mal au cœur? Pourtant, après avoir gerbé, t'avais repris des couleurs. Je réponds, j'ai l'intérieur du corps comme les poissons. J'écris plus, c'est normal, j'ai froid, j'ai le trac dans le ressac. Le bonnet, essayez, rien changé, j'ai les pieds tout mouillés et le corps, en dedans, barbouillé. Après un temps, magique, mer calme, avalée, défoncée dans la cale, je me fais au roulis et tangage irrégulier. Je me fais à mon ventre-cœur centrifugeuse qui continue de lanterner en sens inverse de la houle. Demi-sommeil en demi-réveil, j'émerge et parle au type oiseau qui dort à moins d'un mètre, que je connais à peine comme si pourtant depuis toujours. Je lui parle paisible, défoncé, comme si après l'amour, je lui dis... On est bien là. C'est comme une balançoire. Lui, en réponse, sourire, flashback, enfance, miroir, se penche sur le côté, se penche, il voudrait expliquer ce que lui, parmi tous, est venu foutre ici. Se penche, donc, et me dit « Petit, je m'endormais dans ce ressac, ce moteur sans fatigue, au fond des pétroliers dans lesquels m'emmenait mon père. » Il était marin, mon père. C'est la relâche. On se laisse aspirer. Il n'y a plus de houle, il n'y a plus de pluie qui dehors se défoule, il n'y a plus de nuit. On s'abandonne. On s'abandonne. Pétrolier, campus d'art, chalutier, balançoire, capsule océan ballottée hors du temps, cercueil, berceau, terrier humide, refuge solaire, solide, mobile, ni terre, ni mer.
Wiley, il était là, il est là, il sera là. On va entendre ce texte en deux versions, en chinois tout d'abord et puis en français.
Tazana. 手上的指甲油已经掉得差不多了，可是除了到达的目的地，我什么都记不起来。搭乘地铁，赶着飞机，所有的事情要在30分钟之内完成。拖着行李快步走，走着走着，我迷路了，在十字路口来回转了3圈，并没有找到任何可能发现的站牌。 赫尔辛基的早上有点冷，食物也不算太贵。我们在地图上打了2个圈，这是我们将要走的路。外面下着大雪，听到脚踩雪发出的嘎吱声。 对了，雪知道我来过，也知道我怎么走过。我没有停止，走过芬兰、瑞典的边境，也在瑞典、挪威的边境徘徊。扫雪车在背后追赶，我们往前奔跑，奔跑，奔跑，无意识的奔跑，无意识的奔跑，在前行的火车上来回走过，在宾馆里我们躺着坐着，我闭上眼睛，甚至记不起曾经的我怎么走过。我已经记不起这些每日伴随着我却始终清晰也并不清晰的痕迹和动作，但是它在那儿，过去、现在、未来，它在那儿。
Il était là, il est là, il sera là. Mon vernis à ongles a presque disparu. Mais à part la destination où nous sommes arrivés, je ne me rappelle plus rien d'autre. J'ai pris le métro pour rattraper l'avion, toutes ces choses devaient s'accomplir en 30 minutes. La valise glissait, je marchais rapidement, je marchais, je marchais. Je me suis perdue, après 3 tours du carrefour, sans trouver un panneau qui indique l'arrêt de bus. Le matin à Helsinki, il faisait un peu froid. La nourriture n'était pas chère. On a dessiné 2 cercles sur la carte. C'était le chemin que l'on allait prendre. Il neigeait à l'extérieur. J'écoutais les pieds grincer sur la neige. Oui, la neige savait que je viendrais. Elle savait aussi comment je viendrais. On ne s'est pas arrêté. On s'est promené à travers la frontière de la Finlande à la Suède. Puis nous avons erré de la frontière de la Suède jusqu'à la Norvège. Le chasse-neige courait derrière nous et nous courions vers l'avant. La course s'exécutait inconsciemment. Dans les wagons qui avançaient, on marchait d'un bout à l'autre du train. Dans l'hôtel, on s'est assis, on s'est allongé, on s'est appuyé contre la chaise, le lit, le mur. Je ferme les yeux, jusqu'à ne plus me souvenir. Comment ai-je pu marcher à travers ce temps? Je ne me souviens plus des gestes qui m'accompagnaient tous les jours, de la trace que j'ai laissée là-bas. C'est précis et flou à la fois, mais ils sont toujours là. Hier, aujourd'hui, demain.
Richard Turcet, l'avenir.
Donne-moi mes nuits blanches, mes miroirs, mes secrets. Tout semble si désert, les corps sont privés d'âme. Donne-moi le contrôle des âmes survivantes et viens, viens auprès de moi, c'est un ordre, mon ange. Fournis-moi de la drogue et je prendrai tes fesses. Accepte mon offrande, elle comblera tes failles. Redonne-moi Berlin et Staline et Saint-Paul. J'ai pu voir dans l'avenir, là-bas, tout n'est que meurtre. Les choses vont à leur terme. Dérive, dérive dans tous les sens. Il n'y aura plus rien que tu pourras reconnaître. Là-bas, le blizzard gagne les frontières. Les règles du jeu ont changé. Je me demande ce qu'ils entendaient lorsqu'ils disaient repentance, repentance. Tu écoutes le vent, mais n'entends rien sur moi. Ce fut déjà ainsi, et le sera toujours. Je suis le petit juif qui a écrit la Bible. J'ai vu les nations naître, les empires décliner. J'ai subi leurs histoires, toutes celles qu'ils racontaient. Mais c'est de l'amour seul que dépend la survie. On a recommandé, à moi, ton serviteur, de vous faire une annonce sèchement et sans détour. Le jeu est terminé, il n'ira pas plus loin. Le nirvana s'éteint, les paradis sont clos et le diable entreprend sa terrible ascension. Je l'ai vu dans l'avenir, là-bas, tout n'est que meurtre. Les choses vont à leur terme, dérive, dérive dans tous les sens. Il n'y aura plus rien que tu pourras reconnaître. Là-bas, le blizzard gagne les frontières. Les règles du jeu ont changé. Je me demande ce qu'ils entendaient lorsqu'ils disaient « Repentance, repentance ». L'Empire occidental ne sera plus que ruine, et toutes vos vies secrètes partiront en fumée. Il y aura des fantômes et des feux sur les routes, puis l'homme blanc dansera, dansera dans les flammes. Vous verrez votre femme pendue, la tête en bas, sa robe retroussée masquera son visage, et débarqueront alors les poètes misérables qui se revendiqueront les nouveaux Charles Manson. Redonne-moi le Christ, rends-moi Hiroshima, dans le ventre des femmes, abolissons toute vie, détruisez les fœtus, nous ne voulons plus d'enfants. J'ai pu voir dans l'avenir, là-bas, tout n'est que meurtre. Les choses vont à leur terme, dérive, dérive dans tous les sens. Il n'y aura plus rien que tu pourras reconnaître. Là-bas, le blizzard gagne les frontières. Les règles du jeu ont changé. Je me demande ce qu'ils entendaient lorsqu'ils disaient « Repentance, repentance ».
Et logiquement, après l'avenir de Richard Turcet, Cimetière de Mathias Guittari.
J'étais affalé sur mon canapé depuis des jours à me gaver de bière et de chips aux légumes, à fumer des clopes jusqu'à m'en éclater les poumons, les yeux complètement kéblos sur mon écran, à faire défiler le fil d'actu sans m'arrêter. De quoi on parle en ce moment? Le nouveau gouvernement, les dérapages homophobes à la TV, le palmarès foireux du festival de Nacques, la mort de la poésie, les attentats terroristes, le tennis, le réchauffement climatique, le retour sur Terre du super-héros intergalactique Thomas Poiscaille, la guerre au Moyen-Orient, le code du travail, la colère des féministes, la désertification des centres-villes, les législatives, le Brexit, l'accord de Paris, stop! J'éteins tout, j'ai les yeux qui piquent de particules électroniques, j'allume une clope, ouvre une canette, check mes mails sur ma tablette, waouh! J'ai 352 nouveaux messages de ma rédac chef Laure Milongi. Je lis le plus récent. Qu'est-ce que tu fous? On va boucler la prochaine édition de Pied News. T'as terminé ton article? Ce soir minuit, dernier délai, sinon t'es viré. Ah, j'avais zappé ma chronique. Bon. Fini de rigoler. Je rallume mon ordi direction Tuyoub dans l'espoir de pécho un peu de matière. Ah, les mecs du studio Burger viennent de sortir une nouvelle vidéo, je look. Ouais, ok. Personne leur dit qu'ils sont aussi drôles qu'un clown unijambiste qui viendrait faire un spectacle de monocycle dans une clinique pour enfants éclopés. Je le note pour un prochain papier, ok. Je tape dans le moteur de recherche le sujet de ma chronique « C'était mieux avant » et je tombe sur une vidéo de Monsieur Rêve, un autre humoriste du web. Je regarde. À un moment, le mec dit « C'était mieux avant quand il y avait des jouets à monter soi-même dans les Kinderkurprise. Ça, c'était chouette parce que maintenant... Ah ouais, ça c'est profond, je vais la mettre dans mon article. Je poursuis mon enquête et m'enfonce dans les profondeurs de Tuyoub. Je me fais harceler par tout un tas de vidéos au titre interrogatif. Le rap, c'était mieux avant? Et l'ordinateur? Le travail? Les Copémon? Le théâtre? La cuisine? La littérature? La jeunesse? Ma grand-mère? Etc. Bon. Et à force de surfer, Tuyoub me recommande une interview de ce type-là, de l'Académie française, Alain. Alain comment? Alain f... F... Alain f... Merde alors, j'ai oublié son nom. Je vais pas vous refaire tout l'entretien, mais la journaliste Léa Salami lui balance. Bon, monsieur... Monsieur... Monsieur, bon monsieur, vous critiquez tout un tas de trucs dans votre livre « Oui, oui » et « La décadence de la culture ». À travers le prisme du relativisme culturel, c'est-à-dire que Molière, c'est au-dessus de la littérature d'aujourd'hui, une chanson de rap, ça vaut pas le grand Zarmo, ah ça non, hein, et la BD, cet art pauvre, n'a aucune valeur en face de l'œuvre de l'écrivain chasseur de papillons super badass Vladimir Nabokov. Nabokov. Et là, le vieillard répond « Ouais ». T'as raison Léa, mais tu sais, si j'ai écrit ce livre, blablabla, Kilan Mundera, blablabla, art contemporain, blablabla, à l'époque de Baplo Pissako, blablabla, les jouets multicolores de Kef Jones, gna. Et dites-moi Alain, vous pensez quoi du prix Nobel que c'est Bod Bilan qui l'a eu? Ah Léa, je t'en supplie, ne me parle pas de Bod. C'est difficile à avouer, mais Bod n'est pas un vrai écrivain. Il n'est qu'un simple chansonnier. Bref, visiblement pour lui, aujourd'hui, ça vaut pas l'époque où on chassait le dinosaure fringué comme un Louis XVI. Allez, nouvelle bière et je continue mon exploration. J'entre les mots. Décomposition, outre-tombe, mort-vivant, esprit, cimetière, et je clique sur cette vidéo. J'ai passé la nuit tout seul dans le cimetière le plus terrifiant du monde. On y voit un gars s'enfoncer de nuit dans un cimetière de campagne. Il parle aux esprits, il leur dit un truc du genre « Salut, moi pas être là pour vous embêter, vous. Moi filmer expérience pour mes abonnés, moi juste vouloir dialoguer avec vous. » Le mec y croit gravos et puis plus tard il sort un fidget spinner de sa poche. Ouais, vous savez, le nouveau truc à la mode qui fait fureur dans les cours de récré. Donc il sort le jouet et il dit « Ok les esprits, voulez-vous tourner le spinner pendant que moi filmez-vous avec ma caméra? Aidez-moi à faire le buzz, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» Mais il se passe rien, que dalle. Et c'est là que j'ai une révélation pour ma chronique, ouais. Je vais aller dans le cimetière perdu, dans la forêt à côté de chez moi, et je vais demander aux morts ce qu'ils en pensent du « c'était mieux avant ». J'attrape mon dictaphone, mon matos de détective, et c'est parti pour le reportage. J'arrive à la lisière du bois quand je croise un gobelin. Ça alors ? Si je m'attendais à rencontrer une telle créature ? Il me demande où je vais, je lui dis que je me rends au cimetière oublié au fond de la forêt. « Attention, ce lieu est hanté !» qu'il me dit. Je lui réponds « Ah ouais ? Vas-y gros malin, explique-moi pourquoi dès qu'il y a un endroit abandonné comme ça, un château, une maison ou un cimetière, on dit toujours qu'il est hanté. C'est du putaclic ou quoi ? Réponds-moi, je t'enregistre. » Il me dit « Mais celui-là est vraiment hanté, juré, c'est pas de l'esbrouf. La légende raconte que le fantôme du général Lagol s'empare de l'âme des aventuriers un peu trop téméraires. » Le général Lagol, sérieusement? Ouais, qu'est-ce que tu crois? François Friton, Nicolas Dupont-Lajoie, depuis que le général les habite, ils ne pensent plus par eux-mêmes. Merci pour ces informations, gobelin. Je vais tenter de trouver Lagol dans l'espoir qu'il m'accorde une interview. Alors je m'enfonce dans la forêt, le soleil se couche, ça commence à être inquiétant, chouette. J'arrive enfin au cimetière, j'allume ma lampe de poche et j'observe. Les tombes sont recouvertes d'une végétation épineuse. Le sol est boueux, merde, j'aurais dû mettre des bottes. Et une légère brume envahit l'espace. J'avance encore quand j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne. Il y a une silhouette plantée dans le sol. C'est un homme imposant, orné d'un képi. Sa face est vermoulue et il porte un costume militaire tout déchiré. Le général Lagol. Je dégaine mon dictaphone et je lance l'interview. Lagol ! Pourquoi viens-tu mettre ton nez dans la politique alors que t'es mort il y a 3000 ans? Ça t'amuse de voir tous ces types se masturber sur ta tombe? Réponds-moi, fantôme! Le général, très calme, déclare. Ok, on va passer à une question plus large. Pourquoi on dit que c'était mieux avant? Ça veut dire quoi cette phrase? Pourquoi est-ce qu'ici en France, on tient autant à nos morts? Pourquoi par exemple, quand il y a un écrivain de la préhistoire jugé super balèze par trois types en costard, on fête l'anniversaire de sa naissance, puis l'anniversaire de sa mort, puis l'anniversaire de la publication de son premier livre, puis l'anniversaire de la publication de son deuxième livre, puis l'anniversaire de la publication de son troisième livre, puis l'anniversaire de la publication... de la réédition, de la retraduction, du manuscrit à moitié brûlé par un feu de cheminée et complètement illisible parce que l'auteur avait 8 ans quand il l'a écrit. Et aussi, pourquoi on fout dans un musée le bol dans lequel il a mangé sa soupe au fromage un soir de l'an moins 10 000 et après on reconstitue sa chevelure à partir d'un cheveu retrouvé sur son fauteuil en velours pour la foutre elle aussi dans un musée et que si ça se trouve c'était un putain de poil de chat? C'est pas intéressant? C'est pas intéressant aujourd'hui, les gens, le vivant? Y a pas un truc à faire là tout de suite? Construire l'avenir, développer une nouvelle pensée plutôt que de baiser des squelettes? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, général, hein? J'aimerais avoir ton avis.
C'était hier ou demain? Vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui au Havre et c'est plutôt chouette. Alors il y avait d'abord de la musique, Tour d'horizon d'Emmanuel Lalande et Olivier Labbé, Marie Lamiable, extrait des mouvements prétextes, Valentin Savoie, héros, Guillaume Sorensen, extrait de 52 Hertz, encore de la musique avec 34 de Johan Lindvall, Ayumi Tanaka, Christian Valumrod, Lucas Sibéril, une improvisation, Camille Marteau, préférait vomir sur le pont que passer par-dessus bord, Wiley, il était là, il est là, il sera là, Richard Turcet, l'avenir, et Mathias Guittari, cimetière. Présentation et coordination, Laure Limongi, réalisation Emmanuel Lalande. Vous pourrez nous réentendre en podcast sur www.crealit.fr et retrouver toute la programmation de Westrack Radio sur westrack.com. Bonne soirée.
Ne sa ter mayor kutur ta